des livres plein les oreilles. Salut, c'est Clotilde Sey. Bon an, mal an, le livre audio m'aura permis de dire à 200 reprises des livres plein les oreilles. C'est une aventure qui aura commencé en 2013 avec Un livre découvert que je reprenais à Michel Gélinas et à Carmen Lepage. Et 78 émissions plus tard d'Un livre découvert, eh bien j'en faisais des livres plein les oreilles. Une émission qui jusque-là, ne se consacrait uniquement qu'aux bouquins audio que les personnes mal ou non voyantes se glissaient entre les oreilles. Jusqu'à ce qu'on comprenne de plus en plus que le livre audio, c'était une autre façon de lire. C'était un peu comme une autre manière de rendre la littérature possible à tout le monde, y compris à ceux qui se rendent compte un jour qu'ils peuvent écouter les mots de leurs auteurs préférés en voyageant, en cuisinant, en jardinant peut-être, ou tout simplement en prenant le temps d'écouter ces voix qui se prêtent à la plume d'écrivain. Le destin, les circonstances économiques navrantes et les conséquences dramatiques que Vues et Voix a dû affronter ont permis aussi à cet organisme de sortir la tête hors de l'eau en profitant de cette vague d'intérêt du milieu littéraire pour le livre audio. Ça prenait donc une émission pour célébrer ces bouquins sonores d'ici et d'ailleurs, une émission écoutée de part et d'autre de l'Atlantique, une émission que le podcast véhicule allègrement. Tout comme d'ailleurs c'est KVL où elle est retransmise, mais également la télévision où, selon le câbleau distributeur de votre choix, vous pouvez écouter notre radio Canal M. Des livres plein les oreilles célèbre donc aujourd'hui sa 200e émission. C'est l'occasion pour moi, pour vous aussi je l'espère, de nous souvenir de quelques beaux et grands moments que nous avons vécus ensemble. Avec Jeannette Bertrand, Dany Laferrière, Denise Bombardier, Kim Thuy, Daniel Henkel, Louise Portal et quelques autres qui seront de la partie. Allez, on y va. Lorsque j'ai invité Jeannette Bertrand en 2016, j'étais certaine qu'elle accepterait ça, j'en étais sûre, mais j'étais loin d'imaginer qu'elle allait se pointer dans nos studios. Et lorsque je l'ai vue arriver, souriante, toute là, toute pimpante, sans une once de maquillage, j'ai tout de suite su qu'on allait passer un bon moment. Un livre qu'on devrait tous avoir, je pense maintenant, dans nos bibliothèques, sur nos tables de chevet ou dans nos oreilles, pour en quelque sorte... Peut-être pas nous rassurer sur la vieillesse, mais oui.
Oui, nous rassurer.
Nous rassurer parce que vous mettez le doigt sur ce qu'est la vieillesse, sans fioritures, sans fantaisie. Voilà les enfants, c'est à ça que ça ressemble.
C'est ça.
Et c'est vraiment ce que vous avez voulu faire. Pourquoi ?
Parce que moi, j'ai beaucoup appris dans les livres. Et je cherchais les livres quand je me suis vue vieillir. L'âge, quand ma fille aînée a eu 68 ans, 67. 6 ans, je sais plus trop. J'ai dit, ça, bon, je dois être vieille, c'est comme rien. C'est ma fille à cet âge-là. Alors, j'ai cherché des solutions. J'ai cherché des moyens de rendre ma vieillesse plus calme, plus riche. Et puis, j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai dit, je vais en écrire un. Sur ce que je pense, moi, de la vieillesse, comment j'essaie de vivre ma vieillesse, et ça marche. Je suis de bonne humeur, et j'ai une santé, non, mais et ça part, c'est pas ça. Ma priorité n'est pas ma maladie.
Non.
Ma priorité, c'est ma vie.
Je suis
le jour. Vivante.
Au présent.
Je suis vivante. Mes amies de cœur sont mortes. Moi, je suis vivante. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces années-là? Ou bien, je grogne, je chicane, je dis, si ça peut finir. Ou bien, si j'en profite. Alors, j'ai décidé d'être une grande profiteuse et d'en faire profiter les autres.
Sans compter, Jeannette Bertrand, que tout au long de votre vie, vous avez été celle sur laquelle on a pu compter pour lever des tabous.
Oui.
Énormément. Hein,
dire la vérité.
Dire la vérité. Mmh. Et oui, mais même aussi lever des tabous. Oui. Je veux dire, parler de choses dont on n'avait pas l'habitude, entre autres à la télévision, des sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder. Alors je me disais, après tout, s'il y en avait encore un seul qui lui restait à traiter, c'est bien la vieillesse. Mmh. Mais remarquez, l'avenir nous dira que non, parce que vous avez d'autres projets dont on ne parlera pas tout de suite.
mais c'est que, là, on dirait que dans cette... qu'il n'y en a que pour les jeunes.
Oui.
Alors que... il y a plus de vieux en ce moment au Québec qu'il y a de jeunes. Mmh. Écoutez, il y a 60 gérontologues.
Oui.
Il y en a 60. Il y a 600 pédiatres pour les enfants. Mmh. Alors donc, les vieux, c'est dans une société de consommation, c'est pour jeter. Ne nous en occupons pas. Ben moi, je veux brasser la cage. Je veux dire, oui, occupez-vous de nous autres, parce qu'on est important.
D'ailleurs, en page 60, vous posez une question tellement intéressante que je vais vous poser. Passera-t-on du siècle de la jeunesse au siècle de la vieillesse?
Quand les baby boomers vont être vieux, ils ont entre 60 là, et 65. On est vieux à partir de 70, de nos jours. De 70, et on vit jusqu'à 100 ans. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1800 centenaires au Québec en ce moment. 1800.
Wow.
Centenaire au Québec. Et on me dit que les enfants qui naissent en ce moment vont vivre jusqu'à 120 ans. Alors, il va en avoir des vieux. Il va en avoir des vieux. Faut plus les mettre de côté. Faut que nous autres-mêmes, on s'enlève du côté pour se remettre au centre.
Oui. Et puis, il y a surtout, dans ce livre-là, c'est que vous n'êtes pas une vieille ordinaire. Jeannette, je veux dire, dans le sens où vous êtes encore, bon, vous le dites à plusieurs reprises, souvent, vous avez été hyperactive, aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'active.
Oui, oui, c'est sûr que je suis quelqu'un de très, très actif, parce que je trouve que c'est comme ça que je garde mes neurones, ma tête, c'est comme ça que je garde ma tête. J'ai enseigné pendant 20 ans, c'est la première année où je n'enseigne pas cette année. Et alors, je me suis trouvée des gens à qui je donne des cours.
Oui.
Je vais donner ce que j'ai.
Oui. Rebondisseuse de haut niveau.
Ah, je suis une rebondisseuse. Ah oui, s'il y avait vraiment, c'est ce que j'écris, s'il y avait vraiment une médaille d'or, je serais la grande rebondisseuse.
Je ne suis ni une grande malade et ni une invalide, je suis juste vieille et je suis fière de l'être, c'est la preuve que je suis en vie.
Exactement.
Jeannette Bertrand, il nous reste 20 secondes pour...
On va
se dire au revoir, mais merci à vous.
Merci
pour toutes les personnes âgées qui vont... Lisez ce livre, offrez-le à Noël. Voilà, le cadeau de Noël, c'est le livre de Jeannette Bertrand, La vieillesse par une vraie vieille.
Commencez jusqu'à 50 ans, avant 50 ans, c'est trop de bonheur.
Ah, chère Jeannette Bertrand, oui, c'était en 2016 que je l'accueillais. Il y en a une que j'accueille régulièrement, tous les 3 semaines. Elle accepte, en tant que porte-parole en plus de Vues et Voix, de participer à l'émission Canal M et de nous proposer des livres qu'elle a adorés, mais qui existent aussi en audio. Claudia La Rochelle, bonjour.
Oui, bonjour Clotilde. Toutes mes félicitations pour toutes ces émissions que vous avez, que tu as menées à bien. Wow! Ben, je suis impressionnée.
Honnêtement, moi aussi, parce que une semaine après l'autre, toi qui es dans le milieu, tu le sais, ça revient vite, ça fait beaucoup de livres à lire, ça fait beaucoup de gens à inviter, mais quel enrichissement intellectuel.
J'ai toujours dit... D'abord, tu as une voix extraordinaire. Tu nous berces, Louis, constamment.
C'est vrai.
Avec tes mots, ton savoir, ta sensibilité. Non, mais il faut faire tes éloges. J'espère que les gens font tes éloges parfois, hein, quand tu dis des félicitations ou quelque chose.
Je t'avouerais que j'ai un petit peu hésité avant d'appeler comme ça. Je dis, parce que là, je vais recevoir plein de merci, puis je ne suis pas sûre que je vais dealer très, très bien avec ça. Mais bon, alors je deal.
C'est mérite, là. Donc, vraiment, là, si j'avais beaucoup, beaucoup de sous, là, je te commanderais. vraiment, je donnerais plein de sous pour continuer à faire tout ce que tu fais si bien avec intelligence. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de Clotilde de Seille sur nos ondes. Alors, puis, tout ça, c'est sincère. Là, c'est pas parce qu'on vient de m'envoyer un gros chèque pour que je dise ça. Pas du tout.
Non, je ne l'ai pas encore signé.
mais merci. Écoute, merci pour tout. Puis merci pour cette belle tribune que j'ai avec vos auditrices, auditeurs sur Visez-Voix, sur cette chaîne, ce canal, oui. pour pouvoir vous parler. C'est vraiment un très, très grand plaisir pour moi, un honneur.
Partager, et je sais que, ben, justement, là, les gens qui nous écoutent, ils sont peut-être pas des centaines de milliers, mais je sais que c'est toujours un moment très attendu avec toi, et je te remercie d'être avec nous, et tu seras encore avec nous cette année à l'émission, oui. et c'est génial, Claudia.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour tout et continue. Je te souhaite la santé et l'émerveillement encore, puis de l'amour aussi, c'est important.
Merci, lumineuse Claudia. À toi aussi.
Merci à toi. Bye bye.
Il y en a un autre dont je me disais, tant que je ne le vois pas marcher vers le studio dans le couloir, je n'y croirai pas. Nous sommes en septembre 2015 et qui je vois arriver, évidemment je l'avais invité, hein, fringant, rapide, élégant dans son petit polo rose nanane, Dany Laferrière. Un an de démarche pour moi, démarche motivée, mais aussi pressée pour Dany Laferrière, son horaire... m'oblige même à chambouler l'émission et à débuter avec lui, ce qui n'était pas prévu. Je le vois jeter régulièrement un coup d'œil inquiet sur sa montre lorsque le générique que vous connaissez bien part. Alors déjà que je suis fébrile, comme vous pouvez l'imaginer, me voici un peu à le voir regarder sa montre un petit peu déstabilisée. Mais ouf, je le vois se détendre à vue d'œil et moi aussi je me détends face à lui. Et je peux même vous dire qu'il n'était plus si pressé que cela de lever les pattes, Monsieur Laferrière, quand il a quitté le studio. Il faut dire que j'ai la très bonne habitude de lire les livres de mes invités de bout en bout avant de les recevoir. Je trouve que c'est la moindre des choses, surtout que je n'anime pas, moi, une émission quotidienne, mais une hebdo. Alors ça me laisse le temps, entre guillemets, de le faire. Permettez à votre animatrice, qui est toujours dans le doute, toujours à la recherche de la perfection ou du moins de l'amélioration, d'être bien fier de ça. J'en ai lu et écouté des bouquins. Moi qui me targue d'être plutôt musicienne qu'une littéraire, comme quoi, naviguant sur les pages du livre « L'art presque perdu de ne rien faire » de Dany Laferrière, nous voici partis, Dany et moi, à échanger sur la culture.
Oui, ce problème de la culture oui. et qui se nourrit de gens qui ne se disent pas cultivés, dont après on apprête un peu le plat de la culture et ils ne peuvent pas se le payer. Un peu comme certains pays qui produisent des arachides et puis on leur envoie des choses dans des bouteilles et qu'ils ne peuvent pas se le payer. Et en fait, souvent je rencontre des gens et qui ne savent pas à quel point ils sont nécessaires au cinéma, à la littérature. Et d'ailleurs, ils se croient complètement, disons, vissés au sol. Complètement, ils se disent d'ailleurs les vrais gens. Et que littérature et cinéma, ce n'est qu'illusion. Et je leur dis, mais au contraire, c'est vous. Et c'est à cause de votre vie réelle, quotidienne, physique, concrète, qu'on fait les livres. Vous y êtes plus présent que vous ne croyez. Il y a plus de gens qui ne savent pas lire qui sont dans les livres que de gens qui savent lire, même si les livres sont faits par des gens qui savent lire. C'est à cause de vous qu'on sent l'odeur du vrai, du juste, du réel. Et donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas chercher à lire, pour ne pas chercher à voir des films. L'excuse de l'illusion ne tient pas. C'est vous qui produisez cette illusion qu'on appelle fiction.
Mais lorsque j'ai vraiment senti qu'il se détendait, Dany Laferrière, c'est lorsqu'on s'est mis à parler de mots, à commencer par le mot « province », dont je donne la signification originale sur laquelle Dany Laferrière va rebondir. La région où l'on repousse les vaincus, et là vous écrivez « c'est implacable
». Le dictionnaire est ici, parce que c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui m'avait demandé de faire un discours, une lettre, pour la fête du Québec, et j'avais été lire cela à la Société Saint-Jean-Baptiste, et j'avais demandé aux gens qui étaient là, enfin, il y avait de vieux militants burinés sous le harnais, et s'ils connaissaient la définition du mot province. un mot qui est prononcé depuis peut-être 150 ans au Québec, force, et personne n'avait jamais été tenté de regarder dans le dictionnaire pour voir. Et quand j'ai dit que ça veut dire espace où l'on repousse les vaincus, alors il y a un type qui a dit « Ah ça, je le savais !» Allez, il le sentait. il faut faire attention quand on va dans le dictionnaire, on risque d'y trouver la vérité.
C'est vous qui dites ça, vous qui en ce moment même participez activement à cette œuvre toujours en mouvance qu'est le dictionnaire.
Absolument.
Juste une dernière question. Cela coulait douce. D'après vous, ça vient d'où cette phrase-là?
Ah non, je ne sais pas.
Sachez que si la bière coule parfois à flot et l'eau s'écoule des montagnes, les verbes couler et s'écouler ne s'appliquent pas qu'aux liquides et autres flux, bien sûr. Ils ont aussi une acception temporelle, puisque dans le XVe siècle, on dit que le temps s'écoule, donc on ne disait pas ça avant. Et depuis le XVIIe, on utilise l'expression « couler des jours heureux ». Or, il se trouve que notre expression apparue au XIXe est simplement une forme elliptique de « couler une vie douce ». Finalement, cela coulait douce, c'est la transformation quoi, de cette formulation-là. Je trouve ça très beau.
C'est très très joli, et ce n'est pas loin de s'épivarder.
L'émotion est souvent au rendez-vous dans le cadre de l'émission « Des livres pleins les oreilles ». J'ai le souvenir notamment de Louise Portal, qui est venue deux fois d'ailleurs. La seconde fois, elle venait pour nous présenter « Pauline, ma sœur », un livre consacré à sa jumelle, Pauline Lapointe, disparue dramatiquement. Nous avons enregistré le 10 mai 2017. Nous nous rapprochions d'une date anniversaire. Louise Portal nous en parle et ce sera suivi d'un extrait de « Pauline, ma sœur ». Et écoutez bien cette magnifique lecture, c'est réellement sublime et c'est pour ça que j'ai décidé qu'on réécouterait ça. Aujourd'hui, jour de 200e de l'enregistrement de « Des livres pleins les oreilles ».
Est-ce que c'est une date un petit peu plus difficile que les autres parce qu'elle n'est plus là, justement, ou parce qu'elle est encore là, quoi qu'il arrive?
Dans le silence, il y a beaucoup de choses qui sont dites. C'est drôle parce que je m'en venais à pied à notre rendez-vous. Puis bien sûr, je pense à être beaucoup parce que,
bien
justement,
sûr,
nous sommes le 10 mai.
Oui.
Là, je disais, Pauline, manifeste-toi. Alors, votre question, c'est comme la manifestation de ma sœur. Le 13 mai, qui est aussi mon anniversaire de mariage, nous invitons les amis les plus proches, justement, pour célébrer mon anniversaire du 12 mai et notre anniversaire de mariage, avec, entre autres, la plus grande amie de Pauline, qui est Catherine, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre, la belle Catherine. Alors, Catherine sera avec nous, justement, pour célébrer ma fête, mais aussi la mémoire de Pauline.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils.
Oui, quand on arrive au chevet de quelqu'un qui va mourir, on n'a pas beaucoup de choses à dire, en fait, parce que les mots sont fragiles. Alors, moi, j'ai chanté. J'ai chanté.
Vous l'avez chanté pour vrai?
Oui, mais c'est pas cette chanson-là, en fait, que j'ai chantée.
Ah non!
Mais dans mon livre, j'ai mis celle-là parce que j'ai failli appeler ça « Mon enfant, ma sœur », mon livre.
Oui.
Puis je trouvais que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Puis en plus, bon, Léo Ferré, c'était le chanteur de notre jeunesse aussi, là. Oui. Avant qu'on découvre Johnny Hallyday puis Elvis. D'ailleurs, il y a un très beau chapitre sur Elvis Presley.
Oui, absolument.
Hein, parce que Pauline, c'était son idole.
Le spectacle.
Non, en fait, j'ai chanté une chanson que mon père nous chantait quand on était enfant. C'est que de fois au déclin de la vie, quand je songe aux beaux jours du passé, je revois l'âme toute ravie au nid charmant qui m'a tant bercé. Je revois la maison paternelle, le jardin, le vieux puits, la margelle. Je revois sur le bord du chemin l'arbre géant, le cher vieux sapin.
Ma belle Pauline, ce n'est que ce matin, en te racontant cela, que je réalise pleinement la portée de cette trilogie écrite sur 10 ans. Dans le premier tome, j'ai donné des jumelles à mon personnage de Muriel. Symphonie, morte à la naissance, et Mélodie, qui se suicide à 16 ans. Toute sa vie, Muriel tentera de faire la paix avec ce passé familial tourmenté. Lorsqu'elle accueille chez elle les deux itinérantes en cavale le long de la côte gaspésienne, c'est pour elle une chance de se racheter. Marie Fièvre, dite la grande, et Marie Douce, dite la petite, sont la représentation de ses jumelles en allée. Une fois encore, au cœur de ce récit, j'ai voulu te sauver. Comme si, dans les deux premières années de ton départ, Marie Douce s'était collée à ma plume. Ma plume. Pour témoigner et réparer notre relation abîmée. À présent qu'elles se sont retrouvées, les sœurs du Cap ne se lâchent plus. Les voici affalées sur la banquette d'un poids lourd. La petite, le visage enfoui dans l'odeur rassurante de la grande, somnole un peu, tandis que sa sœur veille. Sur le chemin qui file vers le Cap, Marie-Fièvre fait en pensée le voyage depuis leur fugue du centre le printemps dernier. Presque 7 mois et déjà novembre. Elle se demande quand et où elles finiront par accoster. Sa main caresse l'épaule de la petite. Les papillons mauves et bleus tatoués dans la chair frissonnent. Il est plus que temps que la cavale s'arrête. Son regard se mouille. La route du fleuve ouvre ses bras.
Ah, l'émotion de Louise Portal et cette lecture de cet extrait de Pauline, ma sœur. Moi, ça, oui, vraiment, ça reste un de mes grands moments à cette émission, dans toutes ces centaines d'entrevues que j'ai pu réaliser avec ces auteurs ou narrateurs ou lecteurs. C'est-à-dire dans le cas de Monsieur Gérard. Gérard, es-tu là?
Gérard, il est là, il n'y a pas. Gérard est là, il est encore en forme comme vous autres.
Gérard Saint-Denis, Gérard, mon ami, je suis très heureuse. Je ne pouvais pas célébrer cette 200e, même si c'est vrai que vous faites un petit peu plus rare, Gérard, depuis quelques mois, cette émission. Il ne faut pas m'en vouloir. Finalement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, vous le savez. Mais je tenais, vu qu'on célébrait cet anniversaire, à laisser parler également une personne non-voyante qui, parce qu'au départ, le livre audio, il est fait pour vous. Enfin, quand je dis vous, Gérard, c'est...
Oui, oui, il était fait sur mesure pour moi.
Mais c'est ça, mais toi, Gérard, je sais que sans le livre audio, tu ne vis plus, point.
Ah, exactement. Mais je voulais vous dire une petite chose personnelle. Depuis qu'on s'est parlé, je suis devenu veuf et je vis maintenant dans un toit et demi, dans un HLM. Et je vis en confinement. Imaginez l'importance pour moi là-dessus.
Mais oui.
C'est incroyable. Mmh. Je trouve ça merveilleux. Et je vois vos 200 ans, ces 200 émissions, c'est merveilleux.
Oui, 200 émissions. 200 ans, on va se calmer un peu, Gérard.
Non?
200 émissions, effectivement, oui.
Et 2000, c'est un peu pas mal.
Oui.
Sérieusement, moi aussi, j'essaie de trouver des occasions pour fêter, pour regarder. Et au lieu de fêter juste mon anniversaire de naissance, j'ai décidé que tout à coup, il y a 4 mois, j'ai fêté mes 30 000 journées vivantes.
Oui, en effet.
J'ai pris un verre le soir, puis j'ai appelé un de mes amis.
Ah bon? Est-ce que vous avez déjà calculé le nombre de livres audio que vous avez pu vous glisser entre les oreilles, à tout hasard?
Des milliers. Des milliers de livres, parce que c'est... J'en lis deux à la fois pour ça. J'ai voulu... Ce que je faisais quand j'étais voyant, j'en lis deux. un livre en histoire, puis un livre policier, et j'alterne parce que j'aime ça.
Bon. Et je sais, Gérard, que...
L'occasion, écoutez, c'est très, très important. Je voulais profiter de l'occasion pour dire, féliciter votre équipe, commencer pour
son travail.
Et j'aimerais qu'on parle un peu de nos prêteurs de voix.
Oui.
Prêteurs de voix. Parce que c'est très, très important, ceux qui donnent leur voix. C'est très important. Vous savez qu'on est, alors que les médias ne cessent de nous donner des mauvaises nouvelles, des morts, des malades, des ci, des ça, il y a un soleil qui pointe à l'horizon, c'est le livre. Oui, parce que on prête sa voix pour permettre à des malvoyants d'être capables de lire.
Bien sûr.
C'est un geste très noble.
Oui, absolument. Et vous savez que, Gérard, bon, je vais être obligée de vous interrompre parce que vous savez comment c'est dans une émission de radio où on est toujours un petit peu coincé par le temps. Mais il y a les bénévoles. Là, j'ai deux bonnes nouvelles. C'est que d'une part, les bénévoles vont revenir après la pandémie, bien évidemment, parce que Vues et Voix va à nouveau réenregistrer des livres complètement accessibles qu'on peut trouver via CAEB ou via le SQLA. Mais vous savez que maintenant aussi, on a le catalogue hein, Vues et Voix. Alors évidemment, vous me direz, ce n'est pas gratuit, mais finalement, c'est comme quand on achète un livre à la librairie. Et là, il y a des voix extraordinaires qui viennent lire aussi pour nous. J'espère que tu vous en profites, Gérard Saint-Denis.
Oui, j'en ai pas profité à date, mais je vais le faire. Et parce que je pense que pour moi, c'est quand même une occupation très, très importante.
Ben oui.
Et nourrir l'esprit et les cœurs, faut absolument qu'on a besoin de ça. On a besoin d'avoir un, vous savez, c'est une, comment je dirais ça, le confinement, là, c'est pas facile. Et quand il nous faut un équilibre, absolument qu'on sorte un peu de mentalement, qu'on ait quand même une évasion mentale.
Ben oui, absolument, absolument. Et le livre audio, c'est parfait pour ça. Gérard, c'est tout le temps qu'on avait. J'ai été contente, on a pu parler un petit peu plus que ce qu'on l'aurait pensé au départ. Gérard Saint-Denis, merci mille fois. Moi, je sais qu'à chaque fois que je fais de la lecture de livres, je pense à une personne lorsque je le lis, et c'est souvent à vous que je pense. Merci Gérard.
Portez-vous bien et salutations à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup, Gérard. Merci.
Au plaisir. Bravo.
Alors, restez avec nous pour célébrer la 200e. Là, en deuxième partie, Denise Bombardier, Kim Thuy et Daniel Henkel. C'est Clotilde Sey qui est en votre compagnie. Et alors, c'est ça, on célèbre la 200e de l'émission Des livres plein les oreilles. Des livres plein les oreilles, la suite. Oui, seconde partie de cette spéciale 200e qui va commencer tout en émotion et en fou rire. En dehors du fait d'animer cette émission, vous savez que la vie... Ben non, d'ailleurs, on n'est pas forcément obligé de le savoir, mais il y en a peut-être à qui je vais l'apprendre. La vie m'apporte deux autres grandes joies. Celle de pouvoir lire à haute voix, moi-même, et celle de pouvoir aider, supporter, coacher, Dieu que j'haïs ce mot, mais tant pis, des auteurs qui ne sont pas forcément des lecteurs. Et oui, certains sont plus doués que d'autres, c'est comme dans tout. Mais je fais toujours le même constat. C'est la générosité et l'humilité devant ce travail émouvant et même parfois éprouvant qu'est la lecture à haute voix de son propre texte qui va faire que la lecture sera bonne. Ou pas. Daniel Henkel est arrivé plein de doutes en studio. On m'a demandé de l'aider. Je dois vous avouer que ce fut l'une des plus belles expériences qu'il m'a été donné de vivre. Pourquoi ? Parce que Daniel, elle n'a pas eu peur d'apprendre. Elle n'a pas eu peur de se tromper, de se laisser aller à l'émotion ou de rire d'elle-même. Mais rire, rire. Alors c'est un peu de tout cela que je vous propose maintenant de réentendre Daniel Henkel pour ouvrir cette seconde partie. Madame Henkel, qui pour moi n'est pas une femme en vie, c'est la vie.
Je n'ai jamais beaucoup dormi, mais cette nuit, même l'immense fatigue que je ressens ne me permet pas de trouver le sommeil dans cet avion qui nous conduit à Montréal. Nous devons atterrir à Mirabel. Le nom est joli. Tout à l'heure, Linda m'a demandé s'il y fait le même temps qu'à Montréal. Le Canada, en janvier? Je me suis informée de la météo. J'ai froid, juste à y penser. Mais nous sommes vêtus de vestes de laine et de tout ce que nous avons de plus chaud. Nous sommes prêts. Cette nuit, j'ai l'impression de porter sur mes épaules l'avenir de toute une famille. Ma famille.
D'où vient cette drôle de bibite qui s'appelle Daniel Henkel? Vous êtes rare. Je me suis dit, alors, d'où vient cette rareté? Et j'ai compris que, avant d'être vous-même une maman, donc de 4 enfants, et combien de petits-enfants déjà?
7.
Mais vous avez été une fille. La petite fille laissait présager beaucoup de ce que deviendrait la femme, ne serait-ce que par ce qu'elle a vécu.
Oui, et vous avez tout à fait raison, Clotilde. Je suis aujourd'hui où j'ai été façonnée par le fait que toute petite, j'ai pu avoir la chance de grandir aux côtés d'une grande dame, d'une femme qui m'a plutôt appris à être, à ressentir, à écouter, à observer. Toutes ces aptitudes que nous avons mis de côté souvent, trop souvent, pour le biais de « j'ai appris, je sais, j'ai tel diplôme ou tel diplôme ben, ». L'être humain ne se définit pas que par son parcours académique ou professionnel. À mes yeux, à moi, l'être humain se définit d'abord par ce qu'il représente, ce qu'il est fondamentalement. Et donc, ça se travaille aussi, vous savez.
Oui.
Je crois que je veux pas croire. Hein, je veux pas croire que l'être humain est fondamentalement mauvais. Hein.
Il y a
d'ailleurs un grand philosophe qui le dit. C'est la société qui le déprave. Il y a des grands débats là-dessus. Mais je pense que nous avons tous, nous naissons tous avec cette fibre. C'est juste que malheureusement, on a des expériences de vie différentes et on choisit un bord ou l'autre ou d'autres, peu importe. J'ai choisi de vivre par rapport à ces valeurs-là. J'ai choisi de choisir l'humain.
Oui.
J'ai choisi de décider de ne pas me préoccuper, en fin de compte, et Dieu seul sait que c'était pas simple, Clotilde, si vous saviez.
Non,
mais c'est parce que c'est pas comme ça qu'on agit. On finit par sortir du lot. Pour quelques-uns encore, un mouton noir. C'est-à-dire que je réagis pas de la même façon qu'on réagit. J'essaie toujours de trouver le moyen de trouver des solutions, de communiquer, de parer au côté sombre de l'humain. Alors, est-ce que je suis parfaite? Pas du tout.
Non.
Est-ce que j'ai...
Mais j'en suis convaincue parce que sinon vous seriez d'une platitude infinie, Daniel. Il faut qu'on ait nos erreurs et
Clotilde, il faut les accueillir.
Oui.
Ces failles,
oui.
Comme vous les appelez, parce qu'ils font partie de nous. En fin de compte, je crois que c'est cela. C'est d'être capable de reconnaître ce qui fait de nous un être d'exception, c'est-à-dire un tout. Des émotions qui quelquefois sont complètement irrationnelles, d'autres fois, mais on apprend, on se forge.
On rigole un petit coup?
Oui.
Allez, on va pas fermer les micros, d'accord? On va pas fermer
d'accord.
les micros, puis
d'accord.
on écoute ça ensemble.
Okay.
Alors, oui, je respire. Ouf. Ah, Seigneur doux Jésus, qu'est-ce que tu me fais vivre? Alors, dis-moi ce que tu veux que je dise.
Je vais remonter là.
Ce nouveau refus n'a fait qu'attiser mon envie de garder le petit animal. Et n'écoutant que mon cœur, je me suis sauvée vers la...
Enfin, j'ai pleuré. Moi, j'en peux plus, c'est fantastique. Je te remercie, ma chérie. Oh là 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 là. Ah, que j'apprends.
Tel que je le lui avais enseigné. Malgré cet échec.
Ça, c'est la meilleure. Je pense que juste de penser à l'échec, je voulais le rendre plus humain. Chantons. Chantons, mes amis, ce n'est qu'un échec.
Bonjour, Madame Henkel. Ici, Monsieur Jean. Est-ce que je vous dérange?
J'aurais vu ta tête. Écoute. C'est comme si une mouche était rentrée dans ma narine. C'est comme... C'est surtout tes expressions. Faut que je te prenne en photo. C'est comme... Qu'est-ce qui se passe?
Seriez-vous en train de m'insulter? Elle s'est esclaffée tête en arrière. C'est juste que t'as pas une seule once de cellulite. Allez, je vais t'en faire une.
J'y suis arrivée. Wow. Maman, c'est fini.
Encore quelque chose, tu veux encore quoi? Mon sang? Non, fini, terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi.
Et j'en pleure encore de rire en entendant ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble, aussi bien à lire le livre « C'est l'instinct qui trace la route » de Daniel Henkel qu'au moment de cette entrevue où je lui ai fait découvrir certains de ces bloopers que j'avais pris soin de mettre de côté à cette occasion. Bon, merci mille fois, Daniel, vraiment d'exister. Et merci pour la vie que vous mettez partout où vous passez, y compris dans les studios de Vues et Voix et de Canal M. Un petit mot de Faline Bobier qui m'envoie très gentiment ce texte à l'occasion de cet anniversaire, à l'occasion propice du 200e des livres plein les oreilles. J'aimerais féliciter et remercier du fond du cœur Clotilde Seille au nom du CAEB, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Clotilde a aimablement lancé une invitation permanente aux employés du CAEB souhaitant discuter avec elle des nouveaux titres dignes de mention ajoutés à notre collection pour les lecteurs incapables de lire les imprimés. Elle manifeste ainsi son engagement envers un accès équitable pour tous, quel que soit le moyen de lecture. Merci Clotilde et longue vie à votre magnifique programme. Eh bien, merci à vous, Faline, aussi de participer régulièrement depuis maintenant un peu plus d'un an à l'émission « Des livres plein les oreilles ». Et puisque nous évoquons ces collaborateurs, permettez-moi de m'entretenir maintenant avec Gérald Cousineau, que d'autres occupations ont amené ailleurs, mais qui reste le plus fidèle des fidèles, et même s'il ne veut pas l'admettre, l'homme qui, à ce jour, sait le mieux parler des livres audio. Oh. Bonjour, mon bon vieux Gérald Cousineau, comment ça va?
Bonjour, Clotilde, ben, je vais bien, je vais très bien, et toi?
Oh bien, écoute, c'est un réel bonheur, c'est pas de la flagornerie, c'est pas tous les gens que j'ai aujourd'hui au téléphone, toi, Gérard, Claudia, La Rochelle, vous êtes vraiment des gens précieux à l'émission des livres plein les oreilles, autant pour les personnes mal ou non-voyantes, oui, que pour les personnes qui veulent simplement découvrir une autre façon de lire.
Oh, je m'ennuyais, là.
Oh.
Je m'ennuie déjà.
C'est vrai? Bon, regarde, oui. Moi, je parie qu'on va... Tu vas revenir à l'émission. Je suis certaine qu'un jour ou l'autre, on va te réentendre.
C'est possible.
Tu en écoutes toujours autant des livres, Gérald?
J'ai ce vice dans la peau depuis l'âge de 6 ans, alors.
Ah oui, hein?
Je crois qu'à mon âge, je ne partirai plus maintenant, là. Hmm. Oui, j'aime toujours lire, je suis toujours éclectique, je passe d'un genre à un autre, j'aime ça, oui. J'adore ça, j'en mange, quoi.
Oui. Donc, moralité, la lecture, c'est par les yeux, par les oreilles et par la bouche.
Oui.
Gérald Cousineau, non, vraiment, tes chroniques me manquent. Parce que, pas seulement parce que tu es non-voyant, c'est pas ça, c'est parce que tu as une façon de parler des bouquins, de nous amener dans l'ambiance, l'atmosphère, dans l'histoire, c'est vraiment qui t'est unique. Alors oui, je te le demande, là, officiellement, reviens à l'émission.
D'accord, c'est promis.
C'est vrai?
Je suis en train de rougir, là. Oui, je vais revenir. On s'entendra, toi et moi. Mais oui, j'aimerais bien. Ça me manque.
Je suis contente. Gérald Cousineau, en plus, t'as cette voix merveilleuse, vraiment, qui manquait à nos oreilles. Je suis convaincue qu'il n'y a
pas mal de gens qui vont me l'écrire. Merci.
La cour est pleine.
Arrêtez. Hein. Bon, ben alors je te laisse là-dessus parce que je sais ce que c'est pas. Mais il faut savoir dire merci, Gérald. Et puis je me parle à moi aussi. Allez.
Et c'est moi qui te remercie. À bientôt.
À bientôt, mon Gérald. Bisous, bye.
Au revoir, Clotilde.
Alors, pendant que je vous parlais, vous savez, je suis toujours bien entourée sur le plan technique, soit par Jean-Sébastien Laliberté, qui est absent aujourd'hui, qui est remplacé merveilleusement par Maurice Bolduc, que j'embrasse bien fort. Et puis, il y a aussi l'ami Mathieu Tessier, qui vient régulièrement faire son tour pour m'encourager dans la régie. Et là, il me présente un espèce de classeur sur lequel, classeur, il y a des noms de ceux qui ont collaboré très régulièrement à cette émission. Et permettez-moi que je les cite. Gaston Loubier, et je sais qu'il nous écoute régulièrement. Bonjour Gaston. Huguette Roussel, Nicole Trudeau, Gérald Cousineau, on vient de parler avec lui. Falline Bobier, elle nous a écrit. Yannick Colassa, et puis Lindsay Tyler, excusez-moi. Alors, tous ces gens-là et tous ceux que j'oublie, ben, vous faites vous aussi partie de l'émission Des livres plein les oreilles aujourd'hui et maintenant et à jamais pour les siècles des siècles. Évidemment, tout le monde se lève et on dit Amen. Bon. Kim Thuy. Kim Thuy, elle est venue trois fois nous ravir de son sourire et nous parler de ce pays qu'elle a quitté, mais qui l'anime encore. Elle nous a présenté Rue, Vie et un peu plus récemment M. En janvier 2017, elle évoque pour nous encore une fois la douleur des femmes vécues sur les Boat People, mais elle évoque aussi d'autres sujets cocasses et carrément plus légers. Kim Thuy. Kim Thuy, je cherche un mot qui définisse votre type d'écriture, qui est entre candeur et poésie, pour moi.
Oui. Vous posez la question à la mauvaise personne. Je ne savais même pas que j'écris. Ben, je ne sais toujours pas que j'écris, en fait, et je ne savais pas que j'écrivais.
Mais
non, donc je ne saurais pas qualifier mon écriture tout simplement par manque de connaissances. Pour pouvoir qualifier, il faut connaître en fait plusieurs styles, il faut connaître l'histoire de la littérature. Alors,
vous parlez un français absolument impeccable.
Ah non, j'ai plein de trous, mais vous voyez pas parce que j'utilise juste les mots que je connais. Vous le connaissez. Ben, vous ne voyez pas les mots que je ne connais pas, en fait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de trous dans mon mur, mais je cache bien.
Ah bah oui.
Ou sinon, non, en fait, je ne cache pas si bien. Je fais beaucoup, énormément d'erreurs. Et d'ailleurs, les dernières, c'était en Suède, où je devais utiliser le mot « honneur et mérite » en même temps. Et je ne savais pas si c'était au féminin ou au masculin. Et j'ai demandé, on m'a dit que tous les deux étaient masculins. Mm-hmm. Et j'ai dit, mais il y a une injustice, là. Il fallait quand même, chaise et table, les deux sont féminins, alors que honneur et mérite, les deux sont masculins. Des choses très, 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 très simples,
de base,
de base, et je ne les ai pas, toujours pas d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un journaliste français qui m'a interviewé en direct.
Oui.
Et je n'ai pas compris sa
question.
Non, parce qu'il était extrêmement éloquent. Et juste la musicalité de sa langue m'a hypnotisée et puis j'ai rien compris. Et donc, les deux seuls mots que j'ai retenus de sa question, c'était « hormis » et « en revanche ».
Hein? Ah oui.
Deux mots qui ne donnaient aucun indice et on était en direct.
Oui. Il y a je voudrais commencer par la page 109.
Ah!
Ça vous dérange pas,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la page 109.
À la page 109, il y a Vincent quand il parlait de vous. Vincent, c'est cet homme dont Vie a été très amoureuse et qui finalement a été porté disparu, dont on n'a plus jamais entendu parler.
Ouais.
Et là, donc, l'auteur de Vie, Kim Thuy, écrit « Il m'a comparé aux rares fleurs Udumbara, dont les bouddhistes disaient qu'elles n'apparaissaient qu'une fois tous les 3000 ans, alors qu'elles se cachaient en fait par centaines sous la peau de leurs fruits. Je trouve que vous êtes exactement ça. C'est pour ça qu'on vous aime tant au Québec, ici. Non, mais c'est vrai, c'est comme une fleur rare, tout d'un coup, comme ça, qui sort
pousse.
Du...
Oui. Ah oui, qui oui. pousse sur même les clôtures, hein, cette oui, fleur, oui. Qui se retrouve un peu partout, mais elle ne sort du dessous des pelures de ce fruit-là que, voilà, de temps en temps, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle sort et puis où est-ce qu'elle se trouve.
Il n'y a pas que des choses... joli dans votre livre, je veux dire, il y a aussi des choses terriblement difficiles à vivre, mais vous en parlez encore presque avec le sourire, parce que même quand vous êtes mélancolique, hein, vous l'avez dit d'ailleurs dans un papier, dans une entrevue, dans Le Devoir, vous avez toujours le sourire. Et là, est-ce qu'elle subit entre autres sur les Boat People, ça, on s'en rend pas compte, nous.
C'est presque inimaginable, en fait.
Et c'est inhumain.
Mais le viol ouais. a toujours été utilisé comme arme de guerre. Ouais. Et en fait, arme de domination. Mm. Donc, quand vous êtes un groupe de pirates de 6 ou de 10 personnes, 10 hommes qui arrivent sur un bateau de 20, 50, 100, 200 personnes, pour pouvoir dominer un grand groupe... Vous utilisez l'arme la plus efficace, soit le viol. Et nous, évidemment, moi, personnellement, j'ai eu la chance de traverser sans rencontrer de bateau pirate. Mais j'ai un oncle qui a traversé un peu plus tard. Son bateau a rencontré à 7 reprises des pirates. Donc, vous imaginez les femmes.
Oh là là.
Et je l'ai... Ha est le symbole, en fait, de toutes ces femmes que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'en sont sorties.
Oui.
En fait, qui ont réussi à se relever. Et je vous dirais, la plupart des Vietnamiennes se sont relevées au Vietnam comme à l'extérieur du pays.
Qu'est-ce qu'on appelle une bulle au Vietnam?
Mais non, mais on ne connaît pas cette expression d'être
tout.
Dans la bulle
carrément
de l'autre.
Pas.
Parce que, on n'a pas le droit à une bulle. Il n'y a pas de place pour avoir une bulle. Alors, arriver ici et que les gens nous disent qu'il y a une limite ou il y a un périmètre qui soit personnel, c'était un concept très étranger. Vous voyez, quand vous n'avez pas ce concept-là, mais vous ne pouvez pas interpréter. Et donc, moi, je pensais que l'autre personne est en train de dire « Ah, mais tu me comprends. T'es dans ma bulle. Donc, t'es dans ma tête. » Alors, je dis, ah ben, quel plaisir, ben oui, merci. Au lieu de reculer, j'avançais.
Alors, autre chose d'adorable, le baiser. Alors, le baiser, parce que le baiser tel que nous le connaissons ici...
Le French kiss.
Le French kiss, ça n'existe pas.
De un, il n'y a pas de traduction en français pour le French kiss. Vous saviez ça? C'est fou, hein, quand même.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on pense que les Français le font mieux que nous. Mais peut-être pas.
Oui, on sait qu'ils sont plus doués avec la langue. Non, mais sérieusement.
Les Vietnamiens, il y a une certaine pudeur.
Oui.
Donc, vous ne voyez jamais déjà, même juste la bise n'existe pas.
Ah non?
Non, on ne se touche pas. Hein. Et je me souviens, on rigole encore, ma tante, quand son mari lui a fait la cour, et le moment où elle a accepté, en fait, sa façon de dire qu'elle a accepté, c'est il lui a touché le petit doigt. Et donc, encore aujourd'hui, mon père, il passe à côté et puis il touche le petit doigt pour dire « Oh! » Ça, c'était le geste osé. Oh. Et donc, physiquement, il n'y avait pas ce langage. En fait, il n'y a pas de langage corporel. Vous voyez, tout est tellement retenu.
Oui.
Et quand on regarde les peintures japonaises ou chinoises, les anciennes peintures, on voit bien que la bouche des femmes était représentée par un petit point rouge.
Oui.
Parce que la force était dans la retenue, dans la réserve, et non pas dans l'expression. Alors qu'en Occident, c'est tout le contraire. Une personne qui est forte, une personne qui est présente, intelligente, c'est quelqu'un qui s'exprime. Alors que dans la culture asiatique, c'est quelqu'un qui sait se retenir.
Et pour rebondir tout de suite au propos de Kim Thuy, qui d'autre que Denise Bombardier, la quintessence même de la femme occidentale, qui s'exprime. Nous étions en mai 2016, elle nous présentait le Dictionnaire amoureux du Québec.
J'étais très inconsciente quand j'ai dit spontanément oui. Quand on m'a demandé, on m'a dit on veut faire un dictionnaire amoureux du Québec et on croit que c'est vous qui pouvez le faire. Bon, évidemment, on me flattait. Alors donc, et c'était un hommage qu'on me rendait quand même, qu'on rendait.
Mais ce sont des Français qui vous ont demandé ça.
Mais c'est plomb.
C'est plomb.
À Paris,
c'est ça.
Oui. Alors je ne pouvais pas refuser ça. J'aurais pas refusé, mais j'étais effectivement inconsciente de la somme de travail que ça me demandait. Parce que c'est très éclectique, en fait.
Ben oui.
J'ai 105 entrées. Ça veut dire 105 entrées, ça veut dire 105 essais différents.
Exactement.
Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut travailler beaucoup avec de la recherche. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui peut faire un livre d'histoire avec des références historiques constamment. Or, dans ce livre, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas inventer, je ne peux pas intuitionner l'année où Champlain est arrivé à Québec. Ça, je l'ai appris à l'école, évidemment, du temps où on apprenait encore ça. Mais en même temps, j'ai dû faire aussi la recherche. Donc, je me suis fait aider quand même. J'ai demandé à une jeune recherchiste de me faire de la recherche. Mais finalement, et ça, c'est mea culpa, je ne sais pas travailler avec la recherche de quelqu'un. Donc, je suis partie de sa recherche qui m'a quand même donné des éléments, des faits. Et j'ai tout repris. Et le matin, quand je me levais, curieusement, parce que là, je me levais à 4h30 du matin pour écrire, je ne savais pas quelle entrée j'allais faire.
Oui, c'est ça, parce que le choix des mots... oui, parce que j'imagine qu'il a fallu que vous vous asseyiez. Bon, OK, qu'est-ce qui est important? Bon, le tutoiement, par exemple. Moi, j'ai trouvé génial qu'il y ait un chapitre sur le tutoiement.
C'est parce frappant.
Que, oui, c'est frappant.
Nous sommes les seuls francophones qui tutoyons le reste de la francophonie. Et quand ils ne savent pas, eh ben, ils sont un peu en état de choc de se faire tutoyer. Surtout les gens plus âgés qui se font tutoyer ici par des gens plus jeunes.
Ah oui, ça m'est encore arrivé la semaine dernière.
Et puis, de toute façon, oui, mais je dis des gens, des étrangers qui viennent.
Oui, c'est sûr.
C'est encore plus, nous, on le sait. Ouais. Mais c'est insupportable. Ouais. Et il n'y a pas de raison. Parce que moi, je suis de l'époque où est-ce qu'on vous voyait les personnes âgées. Ben oui. On vous voyait les gens qu'on ne connaissait pas. Et on vous voyait, oui, absolument. Et on ne tutoyait que les gens dans son monde familier.
Mm-hmm. Alors le choix, parce que
alors le choix, je suis incapable de vous. Évidemment, j'ai fait un choix, non, c'est pas vrai. J'ai fait un choix parce que je suis quand même journaliste, puis ben oui. Une formation en sociologie. Donc il y a des éléments de la société québécoise sur lesquels il fallait se pencher. Bon, mais pour le reste, le matin, c'est comme si je laissais aller. Mm-hmm. J'écoutais exactement comme quand j'écris des romans, des fictions. C'est parce que moi, si je sais d'avance que je vais écrire, ça ne m'intéresse plus d'écrire, je vais m'ennuyer.
Okay.
C'est aussi fou que ça.
Il faut que vous soyez autant surpris.
J'écris, moi, ça me prend la page blanche.
Okay. Hein?
Tout à l'heure, avant de venir vous voir, j'ai fait ma chronique pour le Journal de Montréal de jeudi. Eh bien, je fais un en haut de la page parce que j'écris à la main.
Ouais.
Double interligne sur des tablettes que j'achète au bureau en gros, je ne sais trop. Il faut que ça soit toujours les mêmes tablettes. Et avec des stylos encre, des bouteilles d'encre. Et donc, j'ai mis un. Et là, je ne savais pas encore le sujet de demain. Mais là, je suis obligée d'aller dans l'actualité. J'ai regardé, j'avais lu tous mes journaux. Et là, j'ai mis le titre. Et là, c'est parti. Et c'est comme ça. Parce que moi, c'est ça. Il faut que je m'étonne moi-même.
Oui, oui, c'est ça.
Il faut que, intérieurement... Mais c'est curieux, c'est la première fois vraiment que j'en parle. Parce que les gens nous demandent jamais des choses comme ça. Et alors,
ici,
le dictionnaire... Oui, le dictionnaire, il fallait que je vienne ici. Ça m'a pris 23 livres avant d'arriver dans un studio où on me pose la question. Mais c'est que ce dictionnaire-là, évidemment, il y a des choses qui se sont imposées à moi. Il y a des choses que je devais faire. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'il y a des regrets?
Je n'ai aucun regret parce que ça aurait fallu que le livre ait 2000 pages. J'aime le Québec, mais ça a été très bouleversant pour moi de le faire. Parce que là, j'ai vu tous mes rêves brisés, quoi. Je les sais, mes rêves brisés, j'écris là-dessus tout le temps, mais c'est intellectuel. Là, quand j'ai relu la déclaration, quand j'ai transcrit la déclaration du général de Gaulle, j'étais plus capable d'écrire. Parce que je me suis retrouvée sur l'autoroute, dans ma petite voiture. À ce moment-là, j'avais une petite voiture, une Fiat décapotable jaune, moutarde. Et j'étais obligée d'arrêter la voiture. Je ne pouvais plus conduire tellement je pleurais.
Je vous entends parler de Nice Bombardier. J'ai l'impression qu'en termes d'individualité, il y a des gens que vous aimez totalement d'amour et que c'est peut-être la collectivité québécoise aujourd'hui qui vous déçoit. J'ai raison ou j'ai tort?
Non, on ne peut pas dire ça. Je suis déçue de cette incapacité que nous avons à voir la réalité en face. Nous vivons dans l'illusion. On a vécu en pensant que c'était le ciel nous attendait, et je crois que c'est une transposition laïque, finalement, de ce qu'on attendait. On attendait le Messie. Eh bien, je vous dirais d'ailleurs qu'en politique, on l'attend tout le temps. On s'enthousiasme pour des Messies. Et des gens qui viennent vous dire, on va tout changer. Mais on a tout changé. Hein? On a à peu près tout changé et on a... Qu'est-ce qui nous reste et quel héritage avons-nous transmis à nos enfants? Ça aussi, j'en parle dans le livre.
Oui, mais ça, c'est un héritage que vous laissez au Québec.
Ça me fait très, très plaisir parce qu'au fond, en fait, je suis très émue parce que c'est mon héritage intellectuel, ça.
Ben, c'est oui.
Moi, le Québec m'a... C'est au Québec, d'abord, que je me suis instruite. J'ai été éduquée, c'est là que j'ai appris à parler et à respecter ma langue avec des religieuses qui voulaient qu'on parle bien parce qu'elles disaient quand on parle bien, on se respecte soi-même. C'est extraordinaire comme valeur. Et que tout le reste qui est venu à côté, j'ai été la première d'ailleurs à en parler, de cette culture de la bêtise, de l'eau bénite, cette façon qu'on a eue de nous éduquer avec la sexualité. Mais en fait, et en même temps, ça avait des grandes qualités. Parce qu'au moins, quand on savait que le péché existait, c'était plus excitant de le faire.
C'est ainsi que se referme la 200e de cette émission. Merci Daniela Ferrière, Louise Portal, Daniel Henkel, Kim Thuy, Claudia Larochelle et Denise Bombardier. Merci aussi aux chroniqueurs qui ont fait cette émission et tous ceux qui ont lu ou écrit ces centaines de livres audio dont il a été question à des livres plein les oreilles. C'est Clotilde Seille qui vous dit à la semaine prochaine parce qu'on continue.